En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Tout d'abord, pour commencer, monsieur le professeur, je tenais à vous remercier, vous et le colonel de l'Espinois, pour m'avoir donné, pour me donner l'opportunité de m'exprimer sur le milieu aérien et la guerre. Un sujet sur lequel j'étais plus ou moins intervenu dans le cadre de cette journée d'études sur guerre et géographie, organisée par monsieur le professeur Philippe Boulanger.
Donc, et moi-même.
Et vous-même, tout à fait. Je garde le meilleur pour la fin, monsieur le professeur. Je comprends bien. Et donc, lors de cette conférence, ma réflexion avait plus tourné sur la géographie militaire aérienne. Lorsque j'ai vu la thématique de cette journée d'études sur les milieux naturels, alors je dirais pas que mon centre géographe n'a fait qu'un tour, mais je dis que c'était aussi l'opportunité, l'occasion de parler de guerre, de parler d'opérations militaires, sous l'angle, je dirais pas purement géographique, mais avec une approche de géographie physique et de géographie humaine, et non pas simplement en parlant que du climat. Voilà. Le rapport entre guerre et milieu aérien. J'ai envie de dire que c'est un rapport qui est, et les interactions qui en découlent sont datent de l'émergence, j'ai envie de dire, du milieu aérien en tant que théâtre d'opération et de l'émergence de l'emploi de l'aviation durant la Première Guerre mondiale. Le capitaine Robert Villatte, dans un ouvrage s'intitulant « Les conditions géographiques de la guerre », et fort donc de son expérience militaire durant la Grande Guerre, identifiait déjà l'homme, les armes et le terrain comme étant les trois facteurs de la guerre, en précisant que les trois éléments de la guerre, justement, le terrain, est le seul qui paraisse et qui est immuable. Quel que soit le type d'action menée, c'est un truisme de le dire, la géographie prend une part non négligeable en tant que facteur et en tant qu'objet de l'action militaire. Et à ce titre, le milieu aérien doit être appréhendé à la fois comme un facteur et comme un objet de la guerre. Afin d'analyser ces relations, que moi j'appelle interactions, je vous propose d'avoir une double approche. Une double approche, donc la première, je dirais ça presque de soi, une approche géographique. L'idée est de voir et de définir le milieu aérien, au regard de ses caractéristiques géographiques physiques et humaines. Et une approche que je traiterai plus de fonctionnelle, c'est-à-dire de voir comment le milieu aérien est utilisé, dans le sens où comment il est utilisé au regard des vecteurs qui y transitent, qui y passent. Nous verrons donc dans un premier temps cette approche géographique des rapports entre le milieu aérien et la guerre. Dans un deuxième temps, et je trouve ça très intéressant, je vous en parlerai tout à l'heure, l'influence de la guerre sur le milieu aérien, parce que ce n'est pas que dans un sens unique. Et enfin, le troisième point traitera du milieu aérien en tant qu'objet stratégique. Alors cette fois-ci, non pas au seul regard de la puissance aérienne, mais j'avais envie un peu de mettre à contribution les milieux terrestres et navals, et de voir justement comment le milieu aérien, et je pèse mes mots, transcende l'action terrestre et l'action navale. Voilà. Alors, il est assez commun de lire que le milieu aérien est un espace homogène, translucide, peut-être un peu à l'image de la mer, et dénué d'obstacles. Chez tous les grands auteurs, on parlera des Douai, on parlera des Mitchell, c'est toujours un peu même l'armée de l'air, hein, dans ses documents officiels, hein, c'est presque un argument de vente, hein, j'ai envie de dire, s'appuie sur cette caractéristique du milieu aérien. Voilà, c'est un vaste espace de liberté. Moi, je m'inscris complètement en faux avec cette idée. Pour moi, il n'y a pas plus fragmenté, plus finalement géographique, hein, avec une forme de topographie aérienne, pardon, que le milieu aérien. Fragmenté, pourquoi ? Par les conditions climatiques, principalement. J'en parlerai tout à l'heure. On pourrait aussi penser aux caractéristiques électromagnétiques. Bon, ça soit trop large. Mais fragmenté également par l'activité humaine. L'activité humaine dans le sens où le monde, le globe, est séparé, fragmenté par des États qui ont des espaces aériens en temps de paix, donc qui sont contrôlés. En temps de guerre, l'espace aérien est également hyper fragmenté. Pourquoi ? Parce que cela impose de définir, de mettre en place des zones de ravitaillement en vol. Cela implique d'avoir des zones et des couloirs aériens, des zones d'interdiction, etc. Et tout cela est fragmenté, à la différence, j'ai envie de dire, du milieu terrestre, dans les trois dimensions, à la fois de manière verticale, avec l'altitude, bien sûr, de manière horizontale, avec l'activité de surface, et de manière temporelle. Voilà. Et donc, c'est ce qui rend On n'est pas dans une logique à qui mieux mieux, mais qui rend le milieu aérien extrêmement complexe. Alors, le climat d'abord. Le climat est un facteur géographique, et c'est le principal, enfin, c'est l'un des principaux facteurs. Il est un facteur géographique pouvant être éphémère, récurrent ou permanent. Donc, son influence sur les opérations militaires est continue et s'exerce à des degrés divers. Le climat se caractérise par de nombreux éléments. Alors, je ne citerai pas tous, mais principalement la température, le niveau de précipitation, le taux d'humidité, la couverture nuageuse, bien sûr, mais également les vents. Voilà. Donc, on parlera du climat de manière générale. Cette influence se fait sentir dans le cadre des opérations aériennes, car on imagine aisément le mauvais temps empêche ou du moins nuit à l'activité aérienne. Si les avions ne peuvent pas décoller, un climat exécrable empêchera l'emploi de certains armements. Il y a cet exemple assez fameux sous les armements à guidage laser, qui, lorsqu'il avait été envisagé qu'il soit utilisé dans le cadre de la zone Europe, donc on est toujours durant la guerre froide, le taux d'humidité et le nombre de gouttelettes en suspension dans l'air pouvaient, entre guillemets, diffraction, ce signal lumineux qui était le laser et donc poser problème au niveau de la précision. C'est un exemple. Ce qui est intéressant aussi, à mon sens, dans cette interaction entre milieu aérien et guerre, c'est la combinaison de logique. Pour exemple, l'opération Rolling Thunder durant la guerre du Vietnam menée par les Américains. Donc on se situe à cette époque, l'US Air Force est confronté dans sa campagne de bombardement au phénomène de mousson, ce qui limite considérablement ses opérations. En effet, le cycle météorologique du Nord-Vietnam conduit généralement à avoir des conditions de bombardement optimales seulement en fin de journée, quand les nuages et les brumes sont minimes ou absents. Je parlais de combinaison politique. Ce qui est intéressant à relever, c'est que durant cette période, le président américain d'alors, donc le président Lyndon Johnson, cherche à éviter des dommages collatéraux. Et pour ce faire, il impose aux planificateurs des restrictions opérationnelles importantes. C'est-à-dire qu'il demande aux équipages, sont obligés de pénétrer, utiliser des corridors aériens bien définis afin d'éviter de toucher les zones civiles. Je vais y arriver. On se retrouve donc avec deux éléments. Un élément temporel qui est intervenir en fin de journée et un élément spatial qui est d'utiliser les mêmes corridors aériens. Ce qui fait qu'il était très aisé pour les Nord-Vietnamiens d'installer leur défense de système anti-aérien et de concentrer leurs efforts à un temps donné et à un endroit donné. Autre exemple, les températures élevées affectent à la fois les hommes, le matériel et les infrastructures. Cette fois-ci, je me situe durant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord, où les températures élevées pouvaient empêcher le décollage des avions. Pourquoi ? Parce que la chaleur réduisait la portance de ces aéronefs. Alors, vous me direz qu'aujourd'hui, avec la technologie, notamment les moteurs à réaction, on pourrait faire fi de ce type de contraintes. Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prend dans le cadre des opérations avec de l'aviation de transport, ces derniers peuvent décoller, mais par contre, ils sont dans l'obligation d'imiter leur charge. Donc, ils peuvent décoller, mais en emportant moins. Pourquoi ? Parce qu'il faut compenser cette perte de portance. Donc, là encore, et c'est un point élément de réflexion que je souhaiterais aborder après avec vous, c'est de voir justement... Est-ce que les évolutions technologiques permettent de s'affranchir complètement ou partiellement des contraintes géographiques ? On verra ça par la suite. Alors, j'avais pris cet exemple concernant les forces navales, mais je ne reviendrai pas dessus. Sur justement l'influence du climat, il y avait cet exemple du vent divin, kamikaze, dont M. Martin Mott a déjà parlé. Donc je ne repasserai pas là-dessus. Enfin, encore une fois, les exemples sont innombrables concernant l'impact du climat en tant que facteur du milieu aérien sur la guerre. Les campagnes napoléoniennes en Russie, la campagne de la Wehrmacht, etc. Donc je pense que ce sont des choses qui sont assez connues. Ensuite, les milieux aériens peuvent également faire sentir leur influence au travers des éléments de géographie aérienne, donc qui constitue mon second point. Dans ce cadre, comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit principalement des espaces aériens. Pour illustrer un peu mon propos, j'ai pris l'exemple de l'opération Eldorado Canyon en avril 1986. Sans rentrer dans les détails, il s'agit ni plus ni moins que d'une opération, je dirais, de rétorsion de la part des Américains suite à un attentat dans une boîte de nuit à Berlin ayant touché des soldats américains. Donc les États-Unis décident de mener depuis la Grande-Bretagne des frappes contre la Libye. Seulement, les États-Unis se trouvent confrontés au refus de la France, de l'Espagne et de l'Italie, refus de survol et utilisation de leur espace aérien. Donc, pour ce faire, ces derniers doivent effectuer un détour de plus de 2000 km en longeant donc les côtes françaises, espagnoles et portugaises, et en pénétrant par le détroit de Gibraltar, qui, à ce point précis, est un espace libre de vol, afin de justement pouvoir frapper la Libye. Là, cet exemple est assez frappant parce qu'on se rend compte que l'espace aérien en tant que facteur de géographie humaine a très clairement impacté, a très clairement influencé la mise en place d'une opération aérienne. Et plus près de nous, on peut aussi prendre l'exemple de la France avec ce raid des rafales de l'armée de l'air qui, pour frapper au niveau du Nord-Mali, a effectué une mission de bombardement de 9h35. Alors, c'est bien qu'on soit capable de le faire, mais il est vrai qu'on a été obligé de le faire parce que l'Algérie n'avait pas encore accordé, n'avait pas encore donné son accord pour le survol. Et là encore, c'est un impact concret, parce que cela implique derrière, alors je prends l'exemple d'Eduardo Canyon, il y a eu de mémoire plus d'une dizaine de ravitaillements en vol tout le long, avec des zones, 3 ou 4 zones de ravitaillement en vol pour les F-111 qui ont dû y aller, mais également qui ont dû revenir. Donc là, c'est aussi intéressant à noter que la géographie humaine a un impact particulier. Pour continuer, à contrario, la guerre peut aussi faire sentir son influence sur le milieu aérien. L'un des exemples les plus frappants pour moi reste l'opération Popeye, qui a été menée par les Américains, toujours en Asie du Sud-Est, entre 1967 et 1972. Cette opération avait pour objectif de modifier le climat. En effet, il s'agissait alors pour l'US Air Force et pour les Américains donc de semer de l'iodure d'argent dans les nuages afin d'intensifier et de prolonger la saison des moussons au niveau du Laos. Le but alors était de rendre, alors Laos, vous voyez le lien avec la piste Ho Chi Minh, bien sûr, qui était, on peut dire un peu l'artère fémorale du ravitaillement des unités Viet Cong qui opéraient en partie donc au niveau du Vietnam du Sud. Donc le but c'était de rendre, par l'accroissement des pluies, des précipitations, par le prolongement de la mousson, de rendre cette piste terrestre impraticable, à la fois pour les camions, mais également pour les hommes, pour les mules, voilà. Donc de rendre le terrain boueux et complètement impraticable. Donc là, on est également dans un exemple assez concret d'influence de la guerre, finalement, sur le milieu aérien. D'ailleurs, à ce propos, parce qu'à cette même époque, l'Union soviétique travaillait justement sur des projets de modification du climat, cette opération qui avait été dévoilée par un journaliste dans les fameux Pentagon Papers, donc des documents qui sont sortis sur la manière dont les Américains menaient leur guerre au Vietnam, tous ces éléments ont abouti à une convention signée à l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 1976, convention visant à interdire justement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires. Donc sur quelques exemples, nous avons carrément pu constater l'aboutissement d'une convention signée au niveau onusien pour pouvoir justement éviter cette influence de la guerre sur le milieu aérien. Les conflits armés sont également à l'origine de la modification des espaces aériens. Alors, je n'aborderai pas cette idée-là maintenant, mais il serait intéressant de discuter cette notion de temps long, de temps court, temps long de la guerre, temps court de la bataille, le climat qui est dans des milieux tempérés, mais on en parlera après, le climat tempéré, on va dire de manière générale, est assez propice à la guerre, mais là, sous le temps court, sur des zones bien précises, au regard des saisons hivernales ou des zones montagneuses, ce n'est pas forcément le cas. Je voulais vous parler de ça pourquoi ? Parce que de la guerre froide, pour moi, je retiens cet élément où une guerre finalement sourde, une guerre qui qui n'était pas Sean, a profondément et pendant longtemps modifié les espaces aériens, et pour cela je pense à l'espace aérien au-dessus de l'Allemagne, où pour pouvoir avoir accès à la zone berlinoise, donc occidentale, il fallait passer par-dessus l'Allemagne de l'Est au travers de trois corridors. Donc finalement on peut aussi se dire que cette guerre froide a modifié justement cette configuration de l'espace aérien. Plus près de nous, un autre exemple de modification du milieu aérien pour cause de conflit, les événements en Ukraine. Alors là, on se situe donc quelques heures après le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines. L'espace aérien ukrainien est un peu, on pourrait dire, devenu un no man's land. Eurocontrol, qui est le gestionnaire de l'espace aérien européen, ainsi que ses homologues internationaux, ont tout de suite indiqué qu'ils rejetteraient systématiquement tous les plans de vol dont les routes passeraient au-dessus de cette zone. Donc seul le survol de l'est du pays était alors formellement interdit. Là, encore une fois, cet exemple illustre peut-être de manière ponctuelle, on y passe sous des temps aussi longs, qu'un conflit, qu'une guerre modifie concrètement, et là c'est assez flagrant au regard de l'activité aérienne, la manière d'utiliser l'espace aérien. On voit concrètement que nous avons un trou ou bien un espace vide et dénué de tout vol. Toujours dans cette même idée, alors pour passer rapidement, on retrouve également ce type d'influence au niveau du Moyen-Orient, au-dessus de la Syrie et de l'Irak, mais également au niveau de la Corée du Nord, où maintenant on n'est plus sous le temps long, où il y a des restrictions, voire des interdictions de survol de ces zones. Donc là encore, on est dans cette idée que la guerre peut influencer le milieu aérien. Je voulais également aborder ce point de ce climat du milieu aérien. On n'est pas forcément dans l'idée où il y a interaction des deux éléments, donc le climat et la guerre. Les éléments climatiques peuvent également être utilisés comme vecteur d'armement. Deux exemples. Le premier, le projet japonais Fugo. Donc il est intéressant de constater, alors les exemples ne sont pas nombreux, mais celui-là je trouve particulièrement éclairant. Là, on se situe donc durant la Seconde Guerre mondiale. L'état-major japonais met en œuvre donc le projet Fugo, qui repose sous l'utilisation du Jet Stream pour expédier des ballons-bombes sur les États-Unis. Alors, le Jet Stream est un fort courant d'air, de haute altitude, qui est bien connu justement des pilotes de l'aviation civile, mais également des autres, qui va d'ouest en est. Et lorsque vous avez des avions qui traversent le Pacifique d'ouest en est, ils cherchent à en bénéficier, pouvoir économiser du carburant. Et à l'inverse, d'est en ouest, ils cherchent à l'éviter pour justement éviter une trop forte consommation. Donc je reviens sur le projet japonais Fugo. Ces dispositifs sont des ballons donc gonflés à l'hélium, auxquels sont fixés un élément pyrotechnique qui permet le largage de bombes antipersonnelles et de bombes incendiaires. Ces ballons étaient lâchés de la côte est de Honshu, et il est prévu qu'ils atteignent une altitude de 38 000 pieds et éclatent au-dessus du territoire américain à l'issue d'un cycle de 3 jours nuit, donc que j'ai formalisé au travers de ces trois colonnes, si je puis dire, et après un trajet de près de 10 000 km. Au final, l'armée japonaise lance ainsi plus de 9000 ballons-bombes entre le début du mois de novembre 1944 et le mois d'avril 1945. Cette période hivernale correspond en effet au moment où le Jet Stream est le plus fort. Quelques années plus tard, cette fois-ci, les Américains utiliseront cette même méthode, non pas pour bombarder, mais pour pouvoir observer et reconnaître. C'est-à-dire que dans les années 50, à l'heure où les satellites n'étaient pas encore opérationnels, au moment où ce fameux mur, pas mur de Berlin, mais ce rideau de fer, comme disait Churchill, tombe, les Américains ont intensément besoin de renseignements sur l'Union soviétique. Et pour cela, ils utiliseront également le Jet Stream. Ils lâcheront des ballons dans l'atmosphère, équipés de moyens de prise de photos aériennes, et avec cette idée que ça traverse et prenne à des moments déterminer, fasse des prises photos. Ces ballons étaient ensuite récupérés au large du Japon pour pouvoir justement exploiter les photos de reconnaissance aérienne. Donc, le milieu aérien influence bien sûr la guerre, les opérations militaires, mais et également bien sûr l'objet d'une influence de la guerre. Mon troisième point portera sur le milieu aérien en tant qu'objet stratégique, car si la maîtrise de l'air n'est pas possible, à mon sens, il s'agit de se prémunir de ses effets. Deux points où je pourrais intervenir à la fois par quelques exemples, les éléments terrestres et les éléments navals. Il convient de maîtriser le milieu aérien pour se prémunir de ses effets. Donc là, je ne vous ferai pas une présentation d'aviateur sur tous les bienfaits de la puissance aérienne. Ce sont des choses qui sont déjà sues. Et le colonel de Sillon s'en chargera, je pense, mieux que moi. Je lance des flammes au colonel. Et le deuxième point verra justement comment justement la maîtrise de ce milieu aérien pour pouvoir l'exploiter à son profit. La place du milieu aérien dans l'histoire de la guerre n'a au final fait que s'enforcer tout au long du XXe siècle. Si on se place au niveau de l'histoire de la guerre, on va dire que le milieu aérien est somme toute très, très récent. Mais cet fait, l'utilisation du milieu aérien a profondément la manière de faire la guerre, que ce soit la guerre sur terre, que ce soit la guerre sur mer. L'aviation a relativisé la notion de distance. Elle a permis de disposer d'une grande force de frappe, associée à cela avec l'évolution technologique, avec la précision. Avec la possibilité d'exercer des bombardements au-delà des lignes de front, l'aviation a également rendu caduque la séparation géographique entre les arrières et les zones de guerre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est un point que je martèle, et on pourra en discuter, mais pour moi le milieu aérien et l'emploi du milieu aérien transcendent, et moi j'aime beaucoup ce terme, l'action des forces terrestres et l'action des forces navales. Tout d'abord transcendent, par exemple, dans le cadre de la reconnaissance. Donc, comme on le sait, c'est durant la Première Guerre mondiale que le milieu aérien devient donc un acteur des opérations militaires, notamment au regard de la reconnaissance. On a tous en tête, durant septembre 1914, que c'est grâce justement à la reconnaissance aérienne qui était visuelle à l'époque, il n'y avait pas encore de photos, que l'inflexion de la marche de la colonne ou de l'armée de von Kluck, et qui va aboutir par la suite à la bataille de la Marne, est repérée. Ils repéraient d'ailleurs avec difficulté. Pourquoi ? Parce que lorsque les aviateurs reviennent sur leur base et font leur compte-rendu au niveau de leur état-major, on ne les croit pas. Et il va falloir pour cela que ces informations soient recoupées, notamment avec des interceptions radio. Et c'est là que viendra aussi par la suite l'idée, il renforcera plutôt l'idée d'utiliser des appareils photo pour pouvoir justement éviter toute interprétation qui pourrait être malvenue. Donc la reconnaissance... lorsqu'on pense au regard de l'action terrestre et de l'action navale, cette dernière apporte finalement ce qu'on pourrait dire une forme un peu de God Eyes, l'œil de Dieu. C'est avec cette idée de permettre, alors d'une part dans le tempo de la planification, donc de connaître le dispositif ennemi, mais également dans le cadre de l'action, c'est-à-dire, et ça on en arrive aujourd'hui avec des vecteurs comme les drones qui sont capables de transmettre en temps réel l'information, de directement que cette information soit au bénéfice du combattant au sol, et non pas forcément seulement au niveau des états-majors, au niveau de la planification. Donc le milieu aérien, par cet exemple... c'était d'autres, mais le temps passe, le milieu aérien, en devenant un acteur incontournable de la guerre, est donc devenu un objet stratégique. En cela, la maîtrise de cet espace est devenue primordiale dans le sens où il s'agit de maîtriser les mouvements, les déplacements, les actions des éléments qui y transitent. Je reviens sur cette notion, mon général vous a parlé de territoire avec l'occupation de l'espace, Monsieur Martin Mort vous avez parlé du fait que la mer était une route, et non pas un territoire, mais il y a toujours cette idée de position temporelle, on est présent. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ça. Pourquoi ? Parce que maîtriser un territoire n'implique pas forcément qu'on y soit présent, mais implique surtout qu'on y maîtrise qui y rentre et qui y en sort. Et en cela, si l'espace aérien, finalement, n'est qu'un milieu où on transite, son contrôle et le contrôle de ce territoire, parce que pour moi c'est un territoire, s'accomplit au travers, on en parle un peu tout à l'heure, au travers de la détection, au travers de la capacité à empêcher les adversaires d'y pénétrer, et au travers justement de cette situational awareness, on parlait de connaissance tout à l'heure, de cette connaissance de ce qui s'y fait, de ce qui s'y passe. Et ça, à mon sens, c'est également un moyen de contrôler le territoire, et non, sans forcément y être présent. Donc, il convient également de maîtriser le milieu aérien pour se prémunir de ses effets. Cet impératif modifie la manière de faire la guerre au sol, sous la mer, mais également sous la mer. Et par voie de conséquence, les forces terrestres, les forces navales, leur matériel, leur organisation, mais également leur manière d'opérer, ont dû s'adapter et ont dû évoluer. Je prends l'exemple de la défense antiaérienne, qui apparaît dès la Première Guerre mondiale avec des unités qui sont équipées alors de mitrailleuses. Par la suite, le calibre, la portée, mais également la puissance des engins ont évolué avec la mise en place des canons, puis des missiles antiaériens. Ensuite, la faculté de rendre ce type d'armement mobile sur des véhicules a accru leur importance dans la manœuvre des forces terrestres. Dès lors que ces moyens antiaériens ont pu être bouger et être insérés dans la manœuvre terrestre en aval, elles ont pris toute leur importance. On pense, j'ai pour exemple, au niveau de la guerre du Kippour, la doctrine mise en place par les Égyptiens, qui ont fait beaucoup de mal à l'aviation israélienne, c'était que les mouvements de leurs blindés ne devaient se faire, ne se faisaient que dès lors qu'il y avait un parapluie antiaérien qui était établi. Donc, ce qui fait que finalement, sur une logique d'offensive, l'élément déterminant de cette offensive n'a pas été le char, n'a pas été le transport blindé d'infanterie, mais a été les défenses de systèmes aériens. Parce que cela a permis justement aux autres unités d'évoluer et d'effectuer leurs manœuvres. Et ces unités, dans l'armée de terre, dans la marine, sont le nid des unités donc à part entière, alors qu'au final, elles n'existaient pas. Au début, pardon, elles n'existaient pas. A contrario, le développement de sites d'armement a également poussé l'aviation à modifier ses tactiques et à développer des systèmes chargés de contrer ce type de menaces. On ne reviendra pas sur ces questions de la lance et de la cuirasse. Dans le cadre de la guerre navale, l'utilisation du milieu aérien a également bouleversé, la manière d'opérer sur et sous les océans. Jusqu'à l'avènement des moyens aériens, les affrontements des navires de surface avaient lieu au contact visuel, avec une artillerie importante. On recherchait d'ailleurs ce contact visuel. Et il s'agissait alors de toucher l'adversaire pour le rendre au mieux inopérant, le couler. Par la suite, l'entrée des points sous-marins ont modifié cette donne, mais c'est également, surtout, l'arrivée de l'aviation, et vous en parlez tout à l'heure durant la Première Guerre mondiale, qui a profondément modifié la manière de faire la guerre sur et sous la mer. Si au départ l'idée était de reconnaître, enfin de dire où se trouvent les unités maritimes, avec l'émergence des moyens sous-marines aéroportés, à partir d'hélicoptères, à partir d'avions de patrouille maritime, l'aviation est devenue acteur de cette chasse sous-marine. Je ne parlerai même pas du porte-avions, les exemples des batailles de Midway et mer de Corail et Midway, donc avril-juin 1942, sont assez éclairants à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est dès lors que c'est à partir de ce moment, enfin, c'est déjà plus ou moins le cas, vous me direz, que le porte-avions devient un peu le fer de lance des forces navales. J'avance. Enfin, il convient également de maîtriser le milieu aérien pour l'exploiter à son profit. Cette maîtrise a ouvert un nouveau champ des possibles dans les manœuvres terrestres et navales. Dans la manœuvre terrestre, des unités dédiées se sont constituées pour exploiter ce milieu aérien. Je pense bien sûr à l'aéromobilité, avec l'emploi des hélicoptères. Je pense à l'emploi d'unités parachutistes, mais également aux unités insérées au sein des unités terrestres, dédiées au guidage des aéronefs dans le cadre de l'appui aérien. Ton niveau également logistique, avec l'approvisionnement des troupes en opération que dans le cadre des évacuations sanitaires, l'exploitation de l'air par les forces terrestres a, le mot peut-être un peu fort, mais j'y tiens, a révolutionné l'approche de la guerre terrestre. C'est un exemple dont on aborde très peu, mais les évacuations sanitaires durant l'entre-deux-guerres ont été développées dans le cadre de la guerre du Rif, dans le cadre des opérations menées dans le Jebel Druze. Et il s'est avéré que cet élément a directement été intégré à la manière de fonctionner. C'est-à-dire que les colonnes qui partaient donc pouvoir contrer une razzia, par exemple, avaient pour critère premier d'installation pour essayer leur campement, qu'ils soient à proximité d'un terrain qui soit capable d'accueillir un aéronef, afin de permettre des évacuations sanitaires. Je cite cet exemple également du concept d'air control développé par les Britanniques en Mésopotamie dans les années 30, où l'aéronef et le contrôle du milieu aérien permet d'avoir cette idée d'économie des forces, c'est-à-dire de pouvoir. L'idée était d'utiliser l'aviation pour contrôler un vaste territoire en partant du principe que dès lors qu'il y aurait des troubles, plutôt que d'avoir une occupation terrestre avec des troupes toujours seules, c'est d'avoir cette réactivité et de projeter des troupes au besoin. Donc ne pas avoir des troupes qui soient présentes partout, mais avoir des troupes qui soient capables de réagir et d'aller intervenir très rapidement, et cela grâce à l'aviation. Donc en conclusion, le milieu aérien est à la fois donc acteur et objet de la guerre. Je dirais que son influence du point de vue des conditions climatiques fait partie de l'ADN des conflits militaires, que son exploitation pour les opérations militaires va aujourd'hui presque de soi. Je ne prendrai pas l'exemple de la Syrie, mais on se rend bien compte quand même que cette exploitation du milieu aérien, l'emploi et l'utilisation des moyens aériens devient, je vais dire, dans le cadre peut-être un peu plus des décisions politiques, un moyen privilégié, parce qu'il y a toujours cette notion qui est toujours présente d'une réflexion, ça va, est-ce qu'on met ou pas des troupes au sol. Je ferme la parenthèse. Je m'étais juste noté deux, trois éléments de réflexion en guise de conclusion que j'aurais aimé aborder avec vous. Est-ce que le milieu aérien est, selon vous, un territoire? Et si oui, pourquoi? Moi, j'ai mon avis sur la question, je vous l'ai donné. Mais on est toujours dans cette idée que le milieu aérien est quelque chose, finalement, d'intangible, tangible, qu'on ne peut pas toucher, donc qui est l'air, qui est difficilement appréciable. C'est une première réflexion. Sous la question des milieux fluides et des milieux solides, alors j'ai beaucoup échangé avec Laurent là-dessus, pendant même pas mal d'heures, et je ne suis pas forcément d'accord avec cette notion de milieu fluide. Alors j'entends la logique avec cette idée de mettre, je ne dirais pas dans un même groupe, à la fois le milieu aérien et le milieu maritime, mais comme je vous disais tout à l'heure en introduction, pour moi, ce milieu aérien est extrêmement fragmenté, très fragmenté. J'appellerais presque une topographie aérienne fragmentée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois par le climat. Peu d'avions accepteraient de passer au travers d'un cumulonimbus du fait des risques. Fragmenté au travers également des caractéristiques du milieu terrestre. Ça a été le cas notamment avec les zones montagneuses, mais également avec les effets climatiques qui en découlent. Fragmenté au regard de l'activité humaine. L'exemple de l'Ukraine, l'exemple d'un théâtre d'opération, où si vous savez qu'il y a des moyens anti-aériens, avec des SAM extrêmement efficaces, on hésitera à passer. Et enfin, dernier point, toujours cette idée de savoir, est-ce que selon vous, je reste dans le cadre du milieu aérien, mais c'est peut-être aussi vrai pour le milieu terrestre, le milieu maritime, les évolutions technologiques peuvent ou permettront de s'affranchir finalement des contraintes du milieu? Est-ce qu'on s'oriente vers ce type de d'éléments? Voilà. Donc moi, voilà, c'est un peu les questions que je me pose, et si on a l'occasion d'en discuter, ce serait avec plaisir. Merci pour votre attention.
Merci à vous. Est-ce que je peux me permettre une remarque de détail? Je crois qu'il est utile de distinguer entre climat et temps. Au sens de temps qui fait le climat, c'est l'état moyen des composantes de l'atmosphère au-dessus d'un espace, alors que le temps, c'est l'état instantané. Et c'est plutôt le temps qu'il fait que le climat qui intéresse les aviateurs, mais pas seulement, enfin. Parce que vous avez parlé de zones climatiques où la portance, enfin, est modifiée du fait du climat, alors cette fois-ci.
Alors j'ai envie de dire, monsieur le professeur, que tout dépend sous quelle temporalité on se place. Sur le temps long, moi je parlerai de l'influence du climat. sur le temps court, qui peut être la bataille, qui peut être un débarquement sur un 44, ce soit la notion de temps qui prendra toute sa place. Donc, vous parlez tout à l'heure de la notion d'échelle et de temporalité. Là, nous sommes en plein dedans, parce qu'en effet, selon voilà, l'échelle spatiale et l'échelle temporelle, ces interactions, cette influence ne seront pas les mêmes.
Mais c'est ce que je voulais suggérer. Oui. Alors, j'imagine que vous avez des choses à dire, non ? Mais monsieur Hamar.
Oui, pour cette question que vous posez, qui est fort intéressante entre le temps et le climat, hein, le temps qu'il fait, bon, c'est l'état de l'atmosphère à un moment donné, et le climat. Mais pour le climat, il y a deux approches possibles, deux définitions possibles, qui est une définition dynamique et une définition statistique. Et selon que l'on prend la définition dynamique, qui est le climat est défini par la succession des types de temps moyens au-dessus d'un lieu pendant une période donnée, trentenaire ou autre, ou la définition statistique, qui est vous avez une moyenne de température de 12 degrés, une moyenne de précipitation, etc., sur une période trentenaire, décennale, moyenne glissante ou autre, vous avez des visions différentes du climat. Vous avez des visions de la météorologie, enfin de la présentation dans les journaux télévisés, hein, où on vous dit que les moyennes, nous sommes au-delà des moyennes, mais dans des périodes comme celles que nous connaissons aujourd'hui, un élément fondamental pour l'approche climatique, c'est que nous n'avons plus depuis quelques années les anticyclones de Sibérie venant sur la France à partir de la mi-novembre. Nous n'avons plus ça. Nous n'avons plus les périodes, les froids intenses. Ces froids intenses sont du domaine climatique. Ils sont du domaine météorologique, naturellement, puisqu'ils imposent, enfin, ils sont caractérisés par les variables atmosphériques à un moment donné. Mais dans le domaine climatique, dans le domaine de la climatologie dynamique, nous ne les voyons plus. Et c'est peut-être ça qui est plus intéressant que des moyennes thermiques. C'est le fait que, alors, qu'on n'a plus d'hiver. Bon, c'est bien beau de dire que le mois de novembre, là, aura des moyennes au-dessus des moyennes saisonnières. Mais et je pense que ça, c'est important pour une vision stratégique ou une vision tactique du temps. C'est cette approche du temps dans sa vision, non pas panoptique, mais dynamique.
Merci. Oula, je n'ai pas fait attention. Qui a levé le doigt le premier ? Monsieur Boulard, allez.
Oui, en ouverture, élément de réponse à la question que tu te posais à la fin, des évolutions technologiques qui pourraient, d'un point de vue énergétique, alors je suis ingénieur de formation, donc ça... D'un point de vue énergétique, je ne suis pas sûr que l'on puisse objectivement trouver quelque chose. Par contre, il y a un fil à la patte du milieu aérien, c'est ce qu'on appelle la loi de la gravitation. Ce qui veut dire que je pense que l'avenir, pour aboutir à la conclusion que l'on a, et en plus on arrive dans des zones qui sont non ou peu régies par le droit international, qui régnera alors le droit du plus fort, c'est tout simplement de grimper en altitude de manière à ce que la force centrifuge compense la force de gravitation, et c'est tout simplement les satellites. Alors ça va du défilant volant bas au géostationnaire volant haut, voire même peut-être demain quelque chose d'un peu intermédiaire volant encore plus haut, mais je pense que la suite sera ça. Et si on veut avoir une idée précise de la question, et ça je pense que la technologie par contre y arrivera, c'est tout simplement de regarder tous les films d'ailleurs essentiellement d'origine américaine, de la guerre des étoiles très à la mode maintenant, où on s'aperçoit que les gens descendent dans l'atmosphère, remontent, mais enfin c'est un... ils font ça, comment dire, comme on prend le métro le matin ou autrement. Mais là, trouver ça dans les basses couches de l'atmosphère, vu l'énergie nécessitée et la problématique des frottements, à mon avis, on ne trouvera pas simplement. Parce qu'il faudra toujours une énergie, et cette énergie, il faudra bien l'amener d'une manière ou d'une autre.
Alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a un élément aussi intéressant à prendre en compte. C'est pertinemment que l'aviation est un élément transitoire. Au pire, une dizaine d'heures, 12 heures de vol, ravitaillement en vol compris. Au niveau des nouvelles technologies, et là-dessus, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et compagnie, ça l'ont très bien compris, c'est le développement et la mise en place de ballons. De ballons qui, bien sûr, sont toujours soumis à la gravité, donc devront redescendre d'un moment ou un autre, mais qui pourront, entre guillemets, tenir l'air sur des échelles temporelles qui, jusque-là, en dehors, bien sûr, de l'espace, n'étaient pas possibles pour des vecteurs aériens. Donc ça au niveau des évolutions technologiques, alors dans le cadre, je digresse un peu, mais dans le cadre de la guerre, il peut aussi, y avoir des éléments intéressants à retirer, avec cette permanence finalement.
Et on en revient à la poussée d'Archimède maritime, c'est exactement le même principe. À ceci près, c'est que de la même manière que les supertankers ont plus ou moins vécu parce qu'ils étaient extrêmement fragiles au mouvement de l'océan, les super zeppelins, si on veut qu'ils aient une bonne capacité d'emport, il faut des super zeppelins, donc des zeppelins puissance 10, ça risque d'être très très fragile. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait quand ils ne servent pas?
Alors, qui avait demandé la parole, M. Mott?
Pour répondre à votre question, l'exposé m'a
passionné. Le micro.
Oui, l'exposé m'a passionné, et effectivement, la fragmentation par les données météorologiques, climatiques, etc., ça, c'est tout à fait convaincant. En revanche, la fragmentation politique est imposée par des autorités qui sont à terre. Et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'on puisse parler de territoire, et je pense qu'en fait, s'il y avait une hiérarchie, alors évidemment, dans les opérations, tantôt c'est l'air qui est pertinent, tantôt et puis c'est la coopération qui est pertinente, donc c'est idiot de faire la guerre des boutons. Mais néanmoins, il faut rappeler, à mon avis, que la hiérarchie naturelle des formes de la guerre, c'est la guerre terrestre qui est première, parce que les enjeux sont à terre, ultimement, sauf dans de très très rares cas, où ils peuvent être en mer. Ensuite, la deuxième forme de guerre, c'est la guerre maritime, parce qu'elle dépend de la terre par ses infrastructures et ses enjeux, mais elle a une permanence très grande. Et l'arme qui est la plus impermanente, c'est l'arme aérienne. Elle est donc subordonnée, en fait, logiquement, aux deux autres. Et celle qui a le milieu qui est le moins territoire, c'est le milieu aérien. Le milieu terrestre commence à l'être, maritime, je veux dire, commence à l'être localement. Mais je crois que la question, c'est où est l'autorité? Où est basée l'autorité qui prend la décision d'instaurer un clivage? Deuxièmement, ce clivage peut cette barrière se volatilise en temps de guerre, puisque, comme dit Clausewitz, la guerre, c'est ce qui fait disparaître les frontières. Non, c'est Ratzel qui dit ça. Hein. C'est d'abord ce qui fait disparaître la frontière. Bon. Et puis, dernier point, vous disiez, un territoire, c'est ce qu'on peut contrôler. Il n'y a pas besoin d'y être physiquement présent. Il suffit de pouvoir contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Je me suis posé cette question pour nos fameuses zones économiques exclusives du Pacifique. On ne peut pas les contrôler. On n'a personne sur place, etc. Bon. Est-ce qu'on peut mettre des drones? Et j'ai posé la question à des marins qui se sont chargés de cette question longtemps. Ils m'ont dit, mais oui, mais le problème du drone, c'est qu'il va avoir du mal à négocier avec les gens qui sont en face. Il peut porter un porte-voix, donc on peut négocier à distance. Mais or, l'occupation, et il faut revenir à Carl Schmitt ici, c'est pas seulement surveiller, etc., et punir, comme disait l'autre, hein, mais c'est dialoguer aussi. C'est la capacité à établir un régime juridique. Et l'occupation est un régime juridique. Et pour ça, il faut négocier. Pour ça, il faut sentir l'adversaire en face à face. C'est encore vaguement possible en mer, où il y a des porte-voix, où on peut échanger des bons hommes de bateau à bateau. C'est pas possible en l'air. Donc moi, c'est pour ça que ce sont les raisons pour lesquelles je parlerai pas de l'air comme d'un territoire.
Alors, sur le premier point, sur le fait que l'action dans le milieu aérien, finalement, et c'est vrai, hein, pour seule, je veux dire, non pas justification, mais finalité, c'est la Terre. C'est ce qu'on appelle, je refle, le kunem, c'est d'abord là où vit l'homme. On n'agit pas dans l'air pour agir dans l'air. On agit dans l'air parce que la finalité est bien sûr le milieu terrestre. Un peu comme d'ailleurs, j'ai envie de dire, la marine.
Finalement. Bien sûr.
Par rapport ensuite à votre réflexion sur à savoir est-ce que le milieu aérien peut être considéré comme un territoire, j'ai presque envie de vous dire, tout dépend de ce qu'on entend par territoire. Est-ce que le territoire, c'est un espace géographique, je me tourne ensuite vers M. Jean-Paul Amat, pour le côté géographe, est un espace géographique délimité par des conditions politiques. On peut aussi parler de territoire naturel, ça peut être un territoire délimité par des caractéristiques climatiques ou relief, etc. Voilà. Moi, je reste sur cette idée que c'est un territoire. Pourquoi ? Parce que l'homme y a un intérêt. Que cet intérêt soit économique, que cet intérêt soit sécuritaire, que cet intérêt soit autre, l'homme y a un intérêt. Donc c'est-à-dire que si l'homme prend, je parle de l'homme de manière générale, prend le temps, prend la peine d'instaurer des limites d'un espace, je parle de l'espace géographique, d'instaurer des limites, prend le temps et met les moyens pour le contrôler. C'est pour pouvoir l'utiliser. Un territoire n'est pas quelque chose de figé ou de statique, c'est quelque chose qui est vivant. Et pour moi, le milieu aérien est un élément vivant. Alors, je ne parlerai pas des petits oiseaux, hein, mais je parlerai d'un milieu vivant parce qu'il transite des transports aériens, il transite certaines économies, il transite également des éléments qui sont invisibles, les ondes radio par exemple. Donc c'est un espace vivant, et en cela, pour moi, ça peut être considéré comme un territoire.
Je trouve que c'est fascinant, cette idée que le territoire, c'est ce à quoi l'homme s'intéresse assez pour le délimiter. Je trouve ça vraiment extraordinairement fort. Mais en même temps, l'objection, c'est que l'espace aérien, il est défini à la verticale des frontières terrestres. Et l'extension les zones maritimes économiques exclusives, etc., sont définies à partir du tracé de côte. Donc malgré tout, ce qui est premier, et c'est pour ça que ça me semble difficile. Alors admettons peut-être le terme de territoire par extension ou extension du territoire, mais...
Facilement tombé, d'accord.
Oui, non, c'est
général, question rapide, s'il vous plaît, parce que le temps passe.
Je vais être extrêmement rapide, mais un petit peu, peut-être, dans le fil, d'ailleurs, un peu de ce que disait Martin. En écoutant votre exposé extrêmement passionnant et très rigoureux, qui montre bien, et je crois que personne ne met ça en doute, l'importance de pouvoir recourir à la troisième dimension dans la guerre, mais en vous écoutant, en réalité, on se dit, en réalité, il n'y a pas de milieu aérien. Il y a un milieu, s'agissant, vous êtes intéressé d'ailleurs surtout aux questions tactiques en réalité. Il y a un milieu aéroterrestre, clairement, et d'ailleurs vous avez dépeint l'interaction entre les gens qui sont vraiment, les pieds touchent le sol et puis ceux qui sont en l'air, mais en réalité il y a le milieu aéro-naval. C'est d'ailleurs une théorie que développait régulièrement l'amiral Guillaume en son temps. Et que voilà, donc c'est une remarque. Et est-ce que ça a fait, à mon avis, ça ne porte atteinte en rien à la noblesse ni des aviateurs ni quoi que ce soit. Mais est-ce que ça a vraiment un sens? Et d'ailleurs, est-ce que on se trompe pas en faisant systématiquement une sorte de symétrie dans un triangle équilatéral entre la Terre, la mer? Je crois qu'on se trompe quand on fait ça. Martin l'a dit, il y a une sorte de logique à la fois chronologique et puis du fait que de toute façon le marin rentre à terre et le pilote atterrit, mais indépendamment de ça, je crois qu'on se trompe en cherchant à vouloir tout mettre en symétrie. Et puis il y a une question finalement, dans votre exposé, il y a quelque chose qui m'a en revanche surpris, qui n'était pas présent, on va savoir pourquoi, mais ça demanderait peut-être deux heures de conférence encore, c'est... Finalement, le cœur de l'arme aérienne, ou en tout cas ce qui me semble avoir suscité tous les débats, c'est sur le fait que l'arme aérienne peut obtenir des résultats politiques par elle seule, à travers, c'est tous les développements, Douai d'abord, Deltoula, Warden, et ses successeurs.
Voilà. Alors, juste pour troisièmement, monsieur le professeur, trois mots. Alors, quatre. Alors, deux mots déjà. Milieu naturel. Lorsqu'on regarde la thématique de cette journée d'études qui est guerre et milieu naturel. Le milieu naturel, c'est pas l'air, c'est pas la terre, c'est pas la mer. Le milieu naturel se définit justement par la combinaison de ces éléments. Le milieu naturel se définit par rapport à des éléments climatiques, se définit par rapport au relief, se définit par rapport à la géologie, se définit par rapport à la densité ou le couvert végétal. Donc déjà là-dessus, je vous rejoins complètement. Si on parle de milieu naturel et de guerre, alors le fait peut-être de partir sur l'air, la terre et la mer, ce ne sont pas des milieux naturels, ce sont des milieux qui constituent. Donc là-dessus, quand vous me dites que le milieu aérien n'est pas en soi un milieu parce que finalement elle ne s'exprime ou il ne s'exprime qu'au travers de ses consoeurs, dire ça comme ça, maritime ou terrestre, je l'entends. Concernant ensuite l'action aérienne, et surtout du fait que je n'ai pas parlé de cet instrument qui est finalement un instrument politique, un instrument diplomatique, on parle peut-être de même diplomatie aérienne, j'imagine. L'idée pour moi était de sortir, j'ai envie de dire, de ces approches qui sont finalement très connues. Enfin, lorsque je vois le plateau, nous avons des militaires, nous avons des spécialistes, parler pour la énième fois... du fait que la puissance aérienne était déterminante, il est un instrument. Enfin, moi, je trouve qu'il est. C'est important, je ne dis pas que c'est pas important.
Je pense que
tout à l'heure, en général, le plaisir.
Le restaurateur n'attend pas. Enfin, je veux bien.
Je suis faible.
Juste pour signaler à l'honorable. C'est un, C'est un argument qui a été très tôt opposé à Douai, le fait qu'il n'existait pas de milieu aérien dans un article de 1928 de l'amiral Bertinotti, auquel Douai a répondu par un autre article en 1929, en disant que Bertinotti disait, comme l'amiral Guillot, comme le général Durieux, qu'il n'existait pas de milieu aérien, mais seulement un espace aéromaritime et un espace aéroterrestre. Et Douai disait que limiter l'action de l'arme aérienne uniquement au milieu terrestre ou au milieu maritime, c'était faire fi de sa liberté d'action qui pouvait aller au-delà. C'était comme liberté de l'action de la marine à la frange de la côte, au cordon littoral. Voilà.
Bon, remarque.
Bon, un tout petit mot très bref.
À mon avis, il ne faut pas confondre la question des milieux physiques et des organisations qui sont derrière. Par contre, peut-être peut-on se souvenir que dans la jeunesse de l'armée de l'air, année 1928-1930, ensuite il y a eu toute une série d'évolutions, à commencer par des problèmes budgétaires, l'idée de l'armée de l'air ou de l'aviation autonome, pour reprendre son terme initial, c'était d'aller seul, beaucoup plus loin que n'allaient les troupes terrestres, et éventuellement beaucoup plus loin que n'allaient les marines. Il ne faut pas oublier cette contingence d'un côté ou de l'autre, plus visible pour l'armée de terre, qui à l'époque sort d'une guerre avec un front, et en plus un front fixe. Mais gardez ça qui a l'idée. Ensuite, il y a eu toute une série d'évolutions avec des bonnes idées, des mauvaises idées. J'ai étudié ça relativement près. J'ai envie de dire qu'à mon avis, il n'y a pas de solution pleinement satisfaisante. On a un état historique. Bon, il faut faire avec.
Merci.